ta parole se donne, c'est toujours un privilège de commenter la parole de Dieu. On va commenter aujourd'hui un texte, c'est assez banal de dire que vous le connaissez, parce que vous connaissez tous la Bible, vous l'avez tous lu une fois par an, pendant des années, comme tout le monde, enfin voilà, etc. Vous êtes des gens sérieux, vous êtes des gens sérieux. Non, c'est une parabole dans l'évangile de Matthieu, dont la lecture m'a interpellé un petit peu, et j'avais à cœur de faire quelques commentaires qui ne seront pas tous frappés du caractère de l'originalité absolue, mais il est bon de relire les textes. Matthieu chapitre 20, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la sixième, puis vers la neuvième heure et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun, un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Vous la connaissiez, cette parabole, bien sûr. Si on regarde un petit peu dans quel contexte on se trouve quand l'évangéliste Matthieu choisit de placer là cette parabole, peu de temps avant, il y a eu un échange entre Pierre et Jésus, mettant en avant les priorités qui sont nécessaires dans la vie. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et Jésus a des paroles très fortes. Il ne faut sans doute pas prendre à la lettre. Hein. Il dit il faut quitter son père et sa mère. Enfin, ces paroles-là, tout abandonner. Mais voilà, c'est un peu le côté caricatural pour dire voilà, ce qui prime véritablement, c'est de marcher à ma suite, au-delà, avant et par-dessus toute autre priorité dans la vie. Et cet échange se termine par cette phrase qui dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alors, on peut se dire, tiens, voilà, en écrivant ça, Matthieu dit « Ah ouais, tiens, ça me rappelle cette parabole qui se termine pareil. » Donc, voilà. Donc, d'où cette parabole qui vient là, et qui va avoir comme objectif d'illustrer aussi la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire de dire « Les premiers seront les derniers seront les premiers. » C'est devenu proverbial. On le dit de temps en temps plutôt de manière ironique, ou plutôt pour critiquer telle ou telle situation. Je ne suis pas sûr que quand on utilise ce proverbe, on en comprenne vraiment le sens, ou qu'on s'embarrasse à essayer d'en comprendre le sens d'ailleurs. Alors on va essayer de voir ce que dit cette parabole, parce qu'une parabole, ce n'est pas tout à fait une histoire comme une autre, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte et puis on passe à autre chose. C'est une histoire dans laquelle il y a une pointe dans la parabole, il y a un truc qu'il faut trouver dans la parabole, enveloppé, si j'ose dire, dans l'histoire, dans un certain nombre de circonstances, et tous les éléments ne sont pas fondamentaux. Alors je vais vous donner ma lecture, vous ne serez peut-être pas d'accord, ou il y aura peut-être d'autres interprétations. Bon, après, je suis ouvert au débat, si vous voulez, on peut faire une discussion après ça, pourquoi pas. Alors les commentaires qui sont faits sur cette parabole, vous en avez sans doute entendu déjà beaucoup, et pas seulement dans nos églises d'ailleurs, y compris partout où cette histoire est connue et un peu racontée, c'est ce qui paraît une injustice, tout simplement. Il y a des mecs qui ont bossé une heure, d'autres qui ont bossé toute la journée. En plus, quand il s'agit des vendanges, le soleil tape dur, on a mal au dos, on porte des charges lourdes, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis voilà que ce patron-là, il traite à égalité tout le monde, sans tenir compte de la participation au résultat de l'entreprise, comme on dirait aujourd'hui en langage business. Hein. C'est vraiment à l'encontre de tout manuel d'économie qui, même sans être des vilains patrons arrogants, dicte un petit peu comment une entreprise doit marcher, quoi. Si on commence à faire comme ça, il faudrait vendre beaucoup de fleurs pour que ça marche après, hein. Ça serait compliqué. Alors les premiers arrivés, on va dire, ils ont raison de pas être contents. On fait des grèves pour moins que ça aujourd'hui, hein, si j'ose dire. Quand même, faut pas exagérer quand même, nous on a bossé toujours et on n'a pas plus. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça que nous dit la Bible par ailleurs, que quel que soit l'effort apporté, quel que soit le travail fourni, tout le monde est à égalité? Non, je ne suis pas certain. Je pense que par ailleurs, la Bible nous montre que nous sommes appelés à l'image de Dieu à construire, à travailler, à œuvrer, à être actifs, et qu'en fonction de la manière dont on s'engage, il y a des conséquences qui sont réelles. La Bible ne dit pas « contentez-vous d'attendre, attendez le plus longtemps, parce que de toute façon, vous allez avoir la même chose à la fin ». Il y a même des textes qui sont presque comiques, hein, quand l'apôtre Paul se bagarre avec les Thessaloniciens. Dans cette église, ils étaient persuadés que le Seigneur allait revenir très vite. Et certains disaient, puisque le Seigneur va revenir, on ne va pas s'embêter à travailler quand même. Hein. C'est quand même idiot de suer le burnous, alors que de toute façon, tout ça, ça va disparaître dans peu de temps. Et l'apôtre Paul dit, c'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour ne pas être à votre charge. Lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Bing. Donc, définitivement, ce n'est pas ça que veut dire cette parabole. Ça n'est pas une nouvelle écriture des ordonnances travail de notre président. Ce n'est pas une nouvelle mouture du revenu universel d'existence dont on a parlé pendant la campagne présidentielle. Bon, ça n'a pas fait des miracles pour celui qui l'avait proposé, mais voilà, ce n'est pas un nouveau manifeste de Karl Marx qui inverse les priorités. Ce n'est pas ça. Voilà, je ne crois pas que ce soit ça. Une autre lecture, assez proche de la première, s'attarde à la supposée paresse de ceux qui traînent toute la journée, finalement, en jouant au dés, en buvant du café et en fumant le narguilé, ou je sais pas ce qu'ils faisaient, là, sur la place du village, et en se disant que finalement, ils connaîtraient le même sort que ceux qui triment, comme si la paresse ou l'inaction, souvent habillée sous les aspects de la méditation et du temps passé à prier, ça valait tout le... Voilà, c'était équivalent à tout le reste. Je ne crois pas que la Bible nous dise non plus ça. La Bible ne met pas en avant l'oisiveté, si on peut utiliser ce mot-là. Non pas qu'il faille faire du travail un dieu non plus. Il ne faut pas non plus être excessif, parce que c'est parfois le cas dans notre société. Tout ne... Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit souvent « Salut, tu fais quoi comme boulot ?» C'est ça qui est le plus important. Hein. Dans notre société, ça a peu tendance à devenir quand même quelque chose qui est de l'ordre de la divinité, le travail. Et comme toute autre passion, le travail, s'il est monté trop haut dans notre échelle de valeur, il va nous asservir comme n'importe quelle autre divinité. Mais néanmoins, et alors là on va encore, parce que j'aime bien lire les textes qui me font rire dans la Bible, dans les Proverbes, il y a un certain nombre de passages qui sont succulents. Sur ces questions-là que vous connaissez sans doute, je vais en prendre quelques-unes là. Va vers la fourmi paresseuse, regarde comment elle travaille, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Au chapitre 10, verset 26, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. Enfin, le paresseux, il pique les yeux, il nous casse la tête, quoi, en fait, hein, c'est ça. Dans les Proverbes encore, au chapitre 12, tiens, verset 27, « L'homme nonchalant ne rôtit même pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. » Qu'est-ce que j'ai noté encore ?« Le paresseux, ah oui, celui-là, il est bien. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène même pas à sa bouche. » Moi, il est fatigué. Quoi. Il a fait une partie du boulot, mais trop fatigant. Il attend que quelqu'un d'autre le fasse. L'image est amusante. Chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Et puis peut-être la perle des perles, enfin, en tout cas dans mon classement à moi. Au chapitre 26, verset 14, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux se tourne sur son lit. C'est bien ça. Le seul effort qu'arrive à faire le paresseux, c'est de se retourner encore sa grince, hein, comme la porte qui tourne sur ses gonds. Non, plaisanterie mise à part, je ne crois pas que la Bible nous dise que nous fasse l'éloge de la paresse. Il y a un monsieur qui s'appelait Eugène Marsan, un écrivain du début du XXe siècle, qui a écrit l'éloge de la paresse. Je n'ai pas lu le livre, hein, si vous le voulez. Allez sur Amazon, vous le trouverez sans doute. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore Jean d'Ormesson, tiens, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui écrivait « J'écrirai volontiers un éloge de la paresse et de l'ennui ». Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas imiter sa voix, mais vous l'avez tous entendu à la radio ou à la télé. Imaginez cette phrase-là dite avec l'espèce d'accent un peu précis de Jean d'Ormesson. Enfin, c'est amusant. Ce n'est pas ça que dit la Bible, je ne crois pas. Donc ce texte n'est pas, c'est pas Karl Marx, ce n'est pas non plus l'éloge de la paresse, ce n'est pas non plus un manuel du parfait viticulteur, hein, c'est pas, on n'apprend pas grand-chose sur la manière dont il faut aller cultiver et récolter la vigne. Et donc, il faut chercher encore un peu autre chose pour dire ce qu'est la pointe de cette parabole. Et je relis pour ça le verset premier, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour la vigne. » Dans les pays de vigne, hein, souvent, enfin, le soleil tape dur, donc effectivement, il faut se... Moi, je me rappelle, mon grand-père était viticulteur, là, du côté de Nîmes. Et quand on était enfant et qu'on allait en vacances là-bas, c'était l'époque où, je me rappelle qu'on voyait mon grand-père revenir quand nous on prenait notre petit-déj, et ça faisait déjà 3 heures qu'il était levé, lui. Hein, il s'était levé à 6 heures du matin, il était allé donner les consignes, je sais pas quoi, enfin je sais pas exactement ce qu'il était allé faire, mais voilà, dans les vignes, dire aux gens ce qu'il fallait faire, dans quelle parcelle on allait travailler aujourd'hui, etc. Puis après il revenait et puis il prenait son petit-déjeuner avec nous. Ça faisait déjà un moment qu'il s'était levé. Et notre maître de maison, vous avez vu qu'il vient, il sort de nouveau à la 3e heure, puis à la 6e, puis à la 9e. C'est-à-dire, la première heure, c'est 6 heures du matin, enfin, à peu près les horaires. Hein. Ce qu'on appelle la 3e heure, c'est 9 heures, puis midi, puis 15 heures, puis enfin 17 heures, toute la journée, sans arrêt, tant qu'il y a du monde à embaucher, tant qu'il y a du raisin à récolter, tant que le soleil est là et qu'il fait jour, à chaque instant, le maître de maison sort. Et il va chercher des gens et il les fait venir dans sa vigne. Et je crois que c'est là la pointe de notre parabole. Ce n'est pas de savoir si c'était juste ou pas juste de distribuer le denier à la fin. C'est que tout au long de l'histoire, le maître de maison, il n'a qu'une chose en tête, c'est il y a peut-être encore des gens qu'il faudrait faire rentrer dans ma vigne, alors je vais les chercher. Il est 6 heures du matin, il est 9 heures du matin, il est midi, il est 15 heures, il est même 17 heures, c'est-à-dire que la journée de travail est presque terminée. Ça ne fait rien. Jusqu'au bout, le maître de maison va... Et va chercher les gens qui sont là et qui pourraient bénéficier du fait de rentrer dans sa vigne. Et je crois que c'est vraiment cela que nous dit cette parabole. Et c'est en ce sens que les premiers seront les derniers seront les premiers. Toutes nos considérations sont marquées par des raisonnements intelligents. Hein. Le fait de donner plus à celui qui a travaillé 10 heures qu'à celui qui a travaillé 1 heure, c'est intelligent, ça tient debout. Mais ça n'est pas de cette dimension-là qu'il est question dans cette parabole. Il est question d'un maître. Le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison. C'est ça la pointe de la parabole, qui est infatigable. C'est le titre que j'ai donné à cette prédication, là, sur mes papiers, en préparant. Un Dieu infatigable. Un Dieu qui aime et qui aime de façon constante. Dans le prophète Jérémie, il y a ce beau texte, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Ça s'adresse à nous, ça s'adresse à toute personne. Dieu est un Dieu infatigable. Non seulement la grâce divine renverse les priorités en agissant pour le seul intérêt du bénéficiaire, sans faire de tort à personne. Hein. C'est ce que dit le maître quand il y en a un qui râle et qui dit « moi j'aurais dû avoir plus ». Il dit « mais ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Je fais ce que je veux, je ne fais de tort à personne, je ne t'ai pas fait de tort ». Non seulement les critères de Dieu ne sont pas les nôtres, et il est en mesure de renverser des priorités, et donc c'est les premiers seront les derniers, mais c'est surtout ce Dieu qui ne se lasse jamais d'appeler les pécheurs à la repentance. Évidemment, ça me fait penser à d'autres textes dans la parole de Dieu, un autre que vous connaissez, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce texte ne nous dit rien de celui qui est derrière la porte. On ne sait pas si c'est un feignant de la 11e heure ou un courageux de 6 heures du matin. On ne sait pas. Simplement, le maître est là, derrière la porte, et il dit « si tu veux m'ouvrir, je rentre ». Comme là, le maître de maison se baladait sur la place du village et dit « si tu veux venir travailler dans ma vigne, t'occupe pas de savoir quelle heure il est, mais rentre dans ma vigne et tu seras récompensé pour cela, tu auras quelque chose pour cette raison-là. Dans le, hein, presque la dernière phrase de cette parabole, si vous l'avez bien entendu, j'ai essayé d'insister un peu dessus, elle est fondamentale. Alors que souvent dans les commentaires que l'on fait, là, quand on insiste sur la répartition des deniers, sur la paresse de ceux qui ne bossent pas, etc., etc., on se demande ce qu'elle fait là. Alors que si on voit vraiment que la pointe de cette parole, c'est ce maître de maison qui, de façon infatigable, continue à aller chercher ceux qui peuvent avoir besoin de lui, il dit « Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» C'est ça le fond de tout. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui est bon, et c'est ce Dieu-là que nous devons rendre vivant aux gens auprès de qui nous sommes, dans notre vie de tous les jours, pour montrer que ce n'est pas un Dieu d'abord, un Dieu de contrainte, d'abord un Dieu d'exigence, d'abord un Dieu de... Mais c'est un Dieu qui est bon, qui aime, et qui, à toute heure du jour, va chercher ceux qui peuvent avoir besoin de lui. Alors, donc vous me direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec la manière dont je lis cette parabole, mais une fois qu'on est... On est dans cette direction-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que non seulement les paraboles, c'était la pointe, une pointe qui était souvent cachée dans une histoire qui se racontait, il fallait un peu creuser pour la trouver, mais ensuite, une parabole, c'est aussi fait pour notre enseignement. Hein, comme Paul le disait à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Alors, la première des choses que l'on peut dire à partir de cette parabole, c'est que nos expériences peuvent être très différentes, mais nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Nous valons tous un denier, si j'ose dire. Que nous soyons des gens qui sont, comme moi, un peu tombés dans la parole de Dieu quand on était tout petit, quoi, c'est pas encore bien sec, hein, d'accord, ou des gens qui se sont convertis hier, ou ceux qui vont rencontrer le Seigneur demain, quel que soit notre parcours, notre vie, ce que nous sommes, nous valons tous un denier aux yeux de Dieu. Un denier, c'est pas rien quand même. En plus, hein, à l'époque, c'était vraiment le salaire d'une journée, c'était pas juste un pourboire. Hein. Mon ami, je ne te fais pas tort. À aucun de ceux qui reçoivent ce denier, le maître de maison n'a fait tort. D'ailleurs, dans la Bible, juste, on trouve des gens qui ont rencontré le Seigneur à des âges très différents. Tiens, je parlais de Timothée tout à l'heure, juste avant le texte que je lisais, verset 14. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, et ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Timothée, il était un enfant de l'Église, quoi. Hein, sa mère et sa grand-mère, nous dit l'apôtre Paul, l'ont enseigné dans les saintes Écritures. Voilà, je me compare un peu à Timothée, si vous voulez ça. C'est tous ceux qui sont des enfants de famille chrétienne peuvent se comparer un peu à ce Timothée. Et puis, on a d'autres exemples. L'apôtre Paul, lui, il était déjà en pleine maturité, hein, puisqu'il était déjà chargé de responsabilité. Il avait, quand il était sur son chemin de Damas, là, il avait des lettres officielles de personnages importants pour aller accomplir une tâche qui avait une importance politique. Donc, c'était quelqu'un qui était, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 35 ans, j'en sais rien. Donc c'était un jeune, certes, mais quand même, par rapport à moi, je veux dire, qui était déjà très actif au milieu de sa vie. Et puis, le brigand sur la croix, il a rencontré le Seigneur vraiment au dernier moment. Alors, je ne sais pas s'il était très âgé ou très jeune, mais c'était vraiment à la dernière minute. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, nous dit l'Évangile. J'ai lu un commentaire qui parle de ça. C'est d'un auteur, un Italien anonyme du 9e siècle. Que personne ne désespère à cause de la grandeur de ses péchés et ne dise « Ah, mes péchés sont tellement nombreux, je ne pourrai plus désormais obtenir le pardon. » Que celui-là ne désespère absolument pas de la miséricorde divine, car les uns sont appelés à la vigne de Dieu à la première heure, d'autres à la troisième, d'autres à la sixième, d'autres à la neuvième, d'autres à la onzième. C'est-à-dire que les uns sont conduits au service de Dieu dans l'enfance, d'autres dans l'adolescence, d'autres dans la jeunesse, d'autres dans la vieillesse, d'autres dans l'extrême vieillesse. Que personne donc, quel que soit son âge, ne désespère s'il veut se convertir à Dieu. Travaillez fidèlement dans la vigne de l'Église pour recevoir le salaire du bonheur éternel et régner avec le Christ dans tous les siècles des siècles. » Voilà, c'était ce commentaire de cet auteur anonyme. Ce qui veut dire que que nous pouvons aussi dire, c'est que quand l'appel de Dieu retentit d'ailleurs, pour nous aussi aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. À chaque instant, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Hein, dans les Hébreux, il y a toute cette périphrase sur un texte qui, ancien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le jour de la révolte, hein, qui relate dans les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. Ils se sont révoltés plusieurs fois. Et Dieu a toujours parlé, et donc là, l'auteur de cette épître aux Hébreux utilise ces exemples historiques pour leur dire, mais c'est aujourd'hui, hein, au verset, prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Chaque jour, c'est l'aujourd'hui de Dieu, pour se rapprocher de lui, pour le rencontrer, pour l'écouter, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, pour lui parler, mais aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire en retour, l'aujourd'hui de Dieu. Alors, que nous puissions nous répondre à ces appels de Dieu, celui qui, de façon infatigable, cherche à nous rapprocher de sa vigne, à nous faire revenir, rentrer, continuer à travailler dans sa vigne. Et puis, si nous voulons nous engager et marcher à la suite de notre maître, alors nous devons nous aussi être travailler, être à l'œuvre, à toute heure de la journée, ne pas être paresseux, à racheter le temps. Comme Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens et celle aux Galates, qu'il a sans doute écrite à peu près au même moment, hein, il écrivait plusieurs lettres circulaires, et donc racheter, je ne retrouve plus le verset que je voulais vous lire, mais ça fait rien, voilà, vous chercherez dans les Éphésiens au chapitre 5, cette expression. Donc il dit, eh bien, soyez à l'œuvre et rachetez le temps. Ça veut dire, ne vous endormez pas, il y a encore des choses à faire pour le royaume de Dieu. Vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à rentrer dans sa vigne, pas juste pour y être et pas juste pour prendre du plaisir, non, pour travailler. Parce que dans une vigne, voilà, quand c'est les vendanges, on travaille et on a mal au dos à la fin de la journée. Alors ça ne veut pas dire forcément prêcher l'évangile à longueur de journée. D'abord parce que tout le monde n'y est pas appelé. Et puis ensuite, parce qu'on a quelques autres occupations annexes parfois, donc il faut bien aussi travailler comme on est appelé à le faire. Mais en tout cas, ça veut dire être fidèle à 100%, tout le temps engagé, conséquent dans nos vies, que ce soit dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie d'amitié avec les uns et les autres, que ce soit dans la rue, etc., ou au volant de notre voiture, pourquoi pas, que tout ça soit conséquent et montre que nous sommes rentrés dans la vigne et que c'est avec Dieu et que nous voulons vivre. Et alors le message pourra passer, et ce message pourra être entendu par ceux que nous croisons. Nous ne savons pas toujours comment. Il y a des fois des messages qui passent, qui disent, voyez comme ils s'aiment, comme on disait des premiers chrétiens. Alors, juste en les voyant vivre, on disait, mais ces gens-là, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que si nous faisons un peu plus d'efforts pour être vraiment conséquents dans nos existences, il y a des messages qui passent sans forcément qu'on ait besoin de faire des phrases, sans forcément qu'on ait besoin d'être un grand orateur. Quels que soient les gens à qui nous nous adressons, que ce soit des gens engagés dans plein de choses, comme les ouvriers de la première heure, que ce soit des gens moyens, hein, comme ceux qui sont rentrés dans la vigne à la troisième, à la sixième heure, à partir de la neuvième heure, là ça commence à être un peu défaillant quand même, faut pas rigoler. Mais surtout ceux de la onzième heure, relisons un petit peu ce qui se dit là, quand le maître... Donc au verset 6 de notre chapitre 20, vers la 11e heure, le maître sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et lui dire, mais c'est que personne ne nous a embauchés. C'est que personne ne nous a embauchés. Et là, je crois, alors je ne sais pas si ça dit le tout de la parabole, mais ce sont les laissés pour compte. Ceux aussi pour lesquels nous sommes envoyés, tous ceux qui souffrent autour de nous, et le monde compte quand même beaucoup de situations, y compris dans notre pays et sans doute dans notre voisinage proche, des situations de difficultés. Et pour ceux-là aussi, ils valent un denier, si j'ose dire. Ceux-là aussi, le maître va les chercher. C'est que personne ne nous a embauchés. Nous sommes laissés de côté. On ne s'occupe pas de nous. Personne n'a voulu. Alors peut-être qu'ils étaient moins beaux, moins forts, je ne sais pas quoi. Enfin, ils avaient peut-être des choses qui pourraient s'expliquer dans notre rationalité habituelle. Mais néanmoins, ils avaient été laissés de côté. Comme ceux pour lesquels Jésus dit, mais vous avez donné un verre d'eau à un des plus petits de mes frères, et c'est à moi que vous l'avez fait. On est dans cette même logique. Alors comment Comment conclure ces quelques réflexions sur lesquelles je vous dis je suis prêt à un débat si vous voulez trouver d'autres sens à cette parabole. Mais je crois d'abord que notre Dieu, et ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est un Dieu infatigable pour tendre la main vers ceux qui ont besoin de lui. Que nous soyons beaux ou pas beaux, forts ou pas forts, courageux ou pas courageux, etc. Nous valons tous un denier symboliquement. Nous avons tous la même valeur à ses yeux. Et ce texte, hein, « Je t'aime d'un amour éternel », prenons-le vraiment pour nous. D'abord, Dieu nous aime d'un amour éternel. Ça ne veut pas dire que nous avons le droit de faire tout, ça ne veut pas dire, là, les épîtres de l'apôtre Paul sont très clairs, hein, dans les Romains, quand il dit, mais alors du coup, ça veut dire qu'on a le droit de pécher, on fait ce qu'on veut, puisque de toute façon, Dieu nous aime. Et l'apôtre Paul développe quand même assez longuement, en disant, non, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Donc, je vous invite à relire les 8 premiers chapitres de l'épître aux Romains pour voir comment l'apôtre Paul développe ça. Mais Dieu est infatigable, il nous offre une vie renouvelée chaque jour, sans calcul de rentabilité. Et notre rôle, c'est aussi d'être capable de montrer cela, éventuellement de dire cela, au monde dans lequel nous vivons et qui a tellement besoin, parfois, de voir ses priorités renversées. La priorité du travail, la priorité de l'argent, la priorité de la puissance, qui ne sont rien aux yeux de Dieu, puisque nous valons tous un denier à ses yeux. Et que nous pouvons dire, et quand on entend « les premiers seront les derniers », c'est souvent pour dire « ouais, c'est n'importe quoi », ou enfin, c'est souvent plutôt une remarque critique, mais non, ça a un sens profond, c'est que Dieu ne fait pas les mêmes calculs que nous. Et je termine avec un petit commentaire de Denis Heller, qui est un pasteur protestant. C'était une fois, on écoutait le culte à la radio, et c'était lui qui prêchait, il terminait comme cela. « Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça ne va pas assez vite. C'est bon pour les comptables, et moi, je ne sais pas compter. La soustraction, c'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, j'ai mal partout. » Ça, c'est plutôt l'affaire du percepteur. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Voilà des siècles et des siècles que j'essaye d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles. Ils se servent même de mon nom pour diviser. Mais la multiplication, c'est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication, je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis imbattable dans ce genre d'opération. Je suis le multiplicateur. Je multiplie tout, la vie, la joie, le pardon. Et si l'homme qui fait le malin multiplie le mal par 10, moi je multiplie le pardon par 1000. Voilà ce Dieu qui n'est pas qui ne calcule pas comme nous, on va dire. Il n'est pas bon, en comptabilité, il dit. Hein. Mais bon, c'est une histoire. Voilà que un petit peu le sens que je voulais donner à cette parabole, et alors peut-être les premiers seront les derniers seront les premiers, mais en tout cas, ce n'est pas nous qui ferons les comptes. Et nous, notre rôle, c'est de vivre de façon cohérente avec ce message de l'Évangile. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une parole vivante, nous le chantons, nous le disons, et fait que nos vies puissent en témoigner également. Elle est vivante parce qu'elle s'incarne dans chacun d'entre nous, qui avons la même valeur à tes yeux, quel que soit notre parcours, notre compétence, notre connaissance, notre âge. Tout cela, c'est secondaire par rapport au fait que nous sommes tous frères et sœurs, parce que en Jésus-Christ, tu nous as tous rachetés, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et nous voulons te remercier pour cela. Amen.